RFJ Info.
Le journal de Michel Léoni.
Bonjour. Nouveau rebondissement dans le dossier Moutier. Malgré le refus du ministère public d'étudier les soupçons de tourisme électoral, le conseiller d'État bernois Christophe Neuhaus aurait volontairement négligé cet avis pour ébruiter l'affaire. C'est le Bund qui le révèle aujourd'hui. Explication à 12h15. La grand-messe de l'horlogerie s'ouvre dans un climat difficile. Baselworld commence demain dans la cité rhénane, alors que l'organisateur de la manifestation a annoncé cette semaine une perte de 110 millions de francs contractés l'an dernier. Le Voïbeux devra porter son équipe ce soir. Le HC Ajoie reçoit Rapperswil à 19h45 pour l'acte 4 de sa série de demi-finale de play-off. Une victoire permettrait aux jaunes et noirs de rétablir la parité contre l'ogre saint-gallois. C'est une météo hivernale plutôt agréable qui nous attend aujourd'hui. Le soleil devrait réussir à percer par moments le couvercle cet après-midi. Les résidus nuageux viendront toutefois lui faire de l'ombre par moments. Les températures sont froides avec un maximum de 3 degrés dans la région. Nouveau rebondissement dans l'affaire de tourisme électoral à Moutier. Un article du Bund paru ce matin remet en cause la chronologie des révélations de ce dimanche. Il pointe l'attitude du conseiller d'État bernois Christophe Neuhaus. Les explications de Raphaël Girardin.
On apprenait ce week-end qu'une étude anonyme sur les mouvements de la population à Moutier avait été transmise au ministère public bernois par Christophe Neuhaus. Une étude qui confirmait un tourisme électoral lors du vote du 18 juin sur l'appartenance cantonale de la cité prévotoise. Problème, peu après l'apparition de l'article, le ministère public faisait savoir qu'il n'entrait pas en matière dans cette affaire. Une décision qui avait été transmise à Christophe Neuhaus le vendredi déjà, comme le révèle aujourd'hui le Bund. Question donc, pourquoi le conseiller d'État a-t-il laissé l'article paraître ? Réponse de Christophe Neuhaus. Il y a eu confusion de sa part et il s'excuse d'avoir envenimé la situation. Le conseiller d'État ajoute qu'après des mois de campagne, il a été gagné par la fatigue et la confusion.
Et ces nouvelles révélations ont fait bondir le camp autonomiste. Laurent Coste, le directeur de campagne de Moutier-Ville Jurassienne, dénonce des manipulations récurrentes du camp antiséparatiste.
Je constate que malheureusement, ce que nous constatons depuis quelque temps se réalise. Il y a une manœuvre concertée de l'UDC et de certains membres du gouvernement bernois pour décrédibiliser complètement le résultat de la votation du 18 juin. Et c'est extrêmement dommageable pour la démocratie et pour l'avenir de la ville de Moutier. Ça me déçoit beaucoup, ça me sidère. C'est quand même extrêmement malheureux qu'un conseiller d'État oublie qu'il est avant tout un magistrat et se transforme finalement en un facteur, on l'a dit, et puis surtout en un complice d'une manœuvre qui vise simplement à priver les Jurassiens de leur victoire du 18 juin. Maintenant, sur la fatigue de M. Neuhaus, je ne sais pas s'il fait allusion à la campagne du 18 juin qui est quand même passée maintenant depuis un moment ou à la campagne électorale pour être réélu, mais s'il veut se reposer, moi je lui conseille de s'occuper un peu moins de la question jurassienne. Et puis visiblement, comme elle a l'air de prendre beaucoup de temps, il pourra certainement dormir plus longtemps le matin et se coucher plus tôt le soir.
Baselworld s'ouvre demain dans un contexte difficile. Le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie se tient jusqu'au 27 mars à Bâle. Ce début de semaine, l'organisateur de l'événement a confirmé une perte de 110 millions de francs contractés sur l'exercice 2017. Et cette année, la célèbre foire verra le nombre d'exposants réduit de près de moitié. Les précisions de Yann Esler.
Une édition très particulière pour Baselworld. Cette année, il y aura 700 exposants au maximum contre 1300 en 2017. Le salon, qui est donc réduit de moitié, reste tout de même la plus importante foire horlogère du monde. Mais cette baisse inquiétante s'explique par deux effets. Les problèmes conjoncturels de l'horlogerie et la concurrence de plus en plus nette du Salon international de la haute horlogerie, le SIHH de Genève. Pour les exposants, les raisons évoquées sont multiples, comme les coûts de participation trop élevés et un public cible qui ne correspond plus aux attentes. Avec une durée du salon réduite de 2 jours, les organisateurs ont désormais annoncé vouloir mettre l'accent sur la qualité en privilégiant seulement les grandes marques. Exit donc les sous-traitants. Un repositionnement qui a aussi ses travers avec des recettes bien moins grandes qu'escomptées, avec déjà 110 millions de pertes pour 2017. L'exercice annuel en cours devrait lui aussi s'avérer difficile. Mais en tout cas, Baselworld a entamé sa mue et veut poursuivre sur sa lancée en matière de diversification et surtout de digitalisation. Il est en tout cas indispensable de revoir la formule si le salon veut rester le numéro 1.
D'un salon, on passe à un autre. Celui de la formation a ouvert ses portes au public aujourd'hui à Moutiers. Des dizaines de métiers sont présentés au Forum de l'Arc jusqu'à dimanche. RFJ est associé à l'événement. Aujourd'hui, demain et vendredi, nous vous proposons des tables rondes au sujet de la formation de 13h à 13h30. Aujourd'hui, le thème sera « Visites guidées et documents pédagogiques ». C'est Anthony Montandon qui animera cette première table ronde. Anthony, on vous retrouve sur place au salon de la formation.
Et dès l'ouverture, ça a été l'effervescence ici à Moutiers. De nombreuses classes de la région ont envahi les couloirs de ce 10e salon de la formation, guidés dans un premier temps par des étudiants de la Haute École Pédagogique. Les exposants rivalisent d'imagination pour attirer les élèves. Les gardes-frontières, par exemple, n'hésitent pas à faire jouer leurs compagnons à quatre pattes pour le plus grand bonheur des curieux. Les gardes pontificaux, eux, laissent exceptionnellement les femmes poser avec la hallebarde en main. Sur le stand de votre radio aussi, les visiteurs se sont pressés. Ils ont l'opportunité pour la première fois parfois de s'enregistrer et de s'écouter. Actuellement, c'est la pause au Forum de l'Arc, mais les portes vont se rouvrir dès 13h, heure à laquelle vous pourrez également nous écouter en direct. Une première table ronde d'une demi-heure vous y sera proposée.
Visite guidée et documents pédagogiques, c'est donc le thème de cette première table ronde. Rendez-vous avec vous, Anthony, dès 13h. Donc, le suicide assisté face à la méconnaissance du public. La section romande d'Exit organise ce soir une conférence ouverte à tous à Glovelier. Objectif, vulgariser les buts de l'association qui milite pour le droit aux humains de mourir dans la dignité. Si aujourd'hui Exit compte près de 400 membres dans le Jura, son action est parfois méconnue, comme le confirme le membre du comité de l'association et animateur de la conférence, Jean-Jacques Bize.
Il y a dans la population suisse d'une manière générale un certain nombre d'ambiguïtés qui subsistent quant à l'activité de Exit Suisse Romande, notamment en lien avec d'autres associations alémaniques qui font beaucoup parler d'elles, comme Dignitas ou Life Circle, qui sont des associations qui, comme vous le savez, acceptent d'aider un certain nombre de personnes qui viennent de l'étranger, ce qui n'est pas le cas de Exit Suisse Romande. Alors il s'agira pour nous ce soir de préciser exactement dans quel contexte cette organisation existe dans le canton du Jura, mais plus globalement en Suisse romande.
Ça peut être choquant quand on dit aider une personne à se suicider.
Oui, oui, ça peut être choquant, hein, mais il faut savoir que ce mouvement d'association Exit aide à mourir dans la dignité est né dans les années 80 du siècle passé, et c'était en réaction contre ce qu'on pourrait appeler le mal mourir, notamment l'acharnement thérapeutique, et dans ce prolongement de cette lutte contre ce mal mourir. C'est une association qui est née pour promouvoir que l'être humain puisse disposer de sa personne, de son corps, de sa vie. Ce qu'il a fait toute sa vie, et dans le dernier moment de son existence, il est aussi à propos pour cette personne de pouvoir choisir sa manière de mourir.
Jean-Jacques Bize était l'invité de la matinale aujourd'hui sur RFJ. Une nouvelle étape pour la cure de jouvence de la chapelle Sainte-Croix entre Fontenay et Villars. Les prochains travaux vont commencer au printemps dans ce lieu désacralisé qui va devenir un espace culturel. Le crépi va être refait lorsque les beaux jours s'installeront, tout comme un chemin d'accès carrossable sera aménagé. Les précisions de notre correspondante en Ajoie, Nancy Chapuis.
Le réveil de la chapelle Sainte-Croix se fait en douceur. Amorcé en 2016, les travaux se poursuivront encore cette année. Mais le budget a été revu à la baisse, estimé au départ à 1,5 million de francs. Les coûts devraient avoisiner les 800 000 francs. Le but, mettre rapidement à disposition ces lieux. Hubert Voisard, membre de la commission de construction de la paroisse de Fontenay-Villars.
Finalement, ce qui a compté, c'était surtout de faire quelque chose de bien et puis ne pas vouloir absolument prendre la grande vitesse. Alors effectivement, les choses, eh ben, elles évoluent. On est quand même satisfait de la situation. Vous voyez, aujourd'hui, ben, c'est vraiment un réveil de cette chapelle qui s'était endormie, qu'on avait délaissée ici. Alors bon, aujourd'hui, vous voyez, on approche de Pâques, et bien, on peut dire que c'est presque déjà une résurrection, pas totalement, puisque encore tout l'intérieur devra être fait.
Le chœur qui regroupe des fresques de grande valeur patrimoniale subira aussi des travaux qui devraient se dérouler dans la foulée. Certains aménagements ont par contre été mis en suspens, notamment ce qui concerne les extérieurs. Mais selon Hubert Voisard, il fallait se fixer des priorités.
Dans le reste de l'actualité, une alerte à la bombe peu commune a eu lieu sur l'axe qui relie Bâle et Zurich. Le tunnel du Bötzberg a été fermé tôt ce matin à cause d'une alerte à la bombe. Le conducteur d'une voiture tombée en panne dans le tunnel, décrit comme psychiquement étrange, avait dit transporter un engin explosif. Le tunnel a été fermé dans les deux sens, ce qui a causé des bouchons. La numérisation profite à la propagation de messages haineux et racistes. Le monde numérique libère la parole aussi pour le pire. C'est ce que constate la Commission fédérale contre le racisme en marge de la journée internationale consacrée à cette question. Aujourd'hui, l'Allemagne en a pris conscience, elle qui a introduit en janvier une loi imposant aux exploitants de réseaux sociaux de supprimer dans les 24 heures suivant publication les contenus problématiques. Les amendes peuvent aller jusqu'à 50 millions d'euros. Martine Brunschwig-Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme.
Nous, on étudiera bien sûr la loi allemande pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Mais ce qu'on constate, ce n'est pas les lois qui vont le changer, mais je pense que c'est la prise de conscience des gens et le fait qu'ils réagissent. Parce qu'on laisse passer une quantité de choses sur les réseaux sociaux qui laissent souvent penser aux gens qu'en définitive, ils représentent une espèce de majorité silencieuse, ce qui n'est pas le cas. Mais ils s'en saisissent et ils prétendent souvent dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et à force de laisser dire et laisser entendre que c'est comme ça que les autres pensent, je pense qu'on encourage d'une certaine façon la propagation de discours de haine et de discrimination, tout simplement parce qu'on laisse le champ libre.
La Commission fédérale contre le racisme en appelle à la responsabilité des réseaux sociaux, des médias, de tout un chacun et des politiciens invités à donner le bon exemple.
RFJ, il est 12h26.
Le sport avec la loterie romande.
Le HC Ajoie aura besoin d'un public nombreux et bruyant ce soir pour renverser l'ogre du championnat de Swiss League. Les hockeyeurs jurassiens accueillent Rapperswil à 19h45 au Voïbeux pour l'acte 4 de cette série de demi-finale de play-off. Le HCA est mené 2-1. Ce soir, les Jaunes et Noirs évolueront pour la quatrième fois à domicile durant ces play-offs. Et le Voïbeux est loin de faire le plein pour ces rencontres. Il y avait 2200 et 3000 spectateurs lors des deux duels contre La Chaux-de-Fonds en quart de finale et 2500 lors de l'acte 2 face à Rapperswil. Le président du HC Ajoie, Patrick Auwert.
C'est un petit peu décevant quand même, parce que à ce niveau-là de la compétition, on pourrait attendre plus, mais ça peut s'expliquer par différents facteurs, notamment un enchaînement des matchs, puisqu'on joue mardi ou mercredi, vendredi, dimanche, donc peut-être un ras-le-bol, un coût financier aussi important pour les familles, et puis on est quand même malgré tout, nous, dans les budgets qu'on s'est fixés, c'est-à-dire 2500 spectateurs par match de play-off. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à plus à ce stade de la compétition.
Il y a des pistes qui sont étudiées pour ramener plus de monde au match ?
Oui, alors la piste principale, eh bien, c'est la qualité de l'accueil, déjà, parce qu'il faut quand même savoir que toutes les places assises sont vendues, même s'il n'y a que 2500 personnes. Donc, notre patinoire a vraiment besoin d'un lifting cette fois, parce que sinon, je pense que les gens ne viendront plus. Donc, si on a une capacité d'accueil correcte et conviviale, je pense qu'on peut faire venir beaucoup plus de public lors de nos matchs.
C'est des gens qui disent, si on ne vient pas beaucoup à l'avance, on ne voit rien du tout.
Exactement, exactement. En fait, la Ligue dit que la capacité de cette patinoire à l'heure actuelle est de 4200. Ensuite, lorsqu'on y applique les normes de sécurité, on se dit on serait plutôt vers les 3800. À la fin, quand on passe les 3000, je pense qu'il y a quelques dizaines de personnes qui voient très peu de choses pendant le match. Donc, c'est quand même un handicap assez important.
Ajoie Rapperswil, quatrième acte des demi-finales de play-off. C'est à suivre en direct et en intégralité sur RFJ ce soir dès 19h30. Kiki Crétin sera notre consultant. Une rencontre capitale pour le FC Basse-Cour. La formation jurassienne de première ligue de football s'en va défier les Kickers de Lucerne. Ce soir à partir de 20h, le FCB peut prendre un peu d'air au classement en disposant de la lanterne rouge. La petite reine sera de sortie dimanche dans la région. Le Grand Prix Crevoisier Tour de la Courtine va lancer la saison de cyclisme. La 12e édition est au programme du côté des Genevais. Le vélo-club Franche-Montagne mouline pour accueillir un joli plateau. Les précisions d'Émilie Moumentaler.
C'est le grand rendez-vous des cyclistes en ce début de saison dans la région. Le Grand Prix Crevoisier Tour de la Courtine figure à nouveau au calendrier des épreuves nationales. Les organisateurs espèrent rassembler plus de 300 concurrents, toutes catégories confondues. Le jeune jurassien Yanis Voisard tentera de s'illustrer chez les élites. Une nouveauté vient marquer cette 12e édition. Amateurs, masters et élites s'élanceront ensemble à 14h et non plus dans un départ par handicap. La course sera donc plus facile à lire. Au menu 120 km pour ces trois catégories, avec une boucle à parcourir à 8 reprises. Départ des Genevées en direction du Prédame. Les cyclistes pédaleront ensuite vers l'Ajoux, Fornay-Dessus, Fornay-Dessous et Bellay. C'est là qu'interviendra la grande difficulté du tracé, avec la montée de 2 km pour rejoindre les Genevées. Les mollets devront être bien affûtés pour espérer s'offrir le bouquet du vainqueur.
Et le Grand Prix Crevoisier Tour de la Courtine a donc lieu dimanche. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci Michel, et la fin continue en tout temps. Vous la retrouvez sur rfj.ch. C'est un temps assez ensoleillé avec quelques résidus nuageux que nous annoncent les experts de Météo News pour la suite de cette journée. Le tout avec des températures restant froides pour la saison et une bise qui renforce cette sensation de froid. Il fera donc au meilleur de la journée moins 1 à Seignelégier et jusqu'à 3 à Port-en-Truy, Delémont et Moutier. Demain, le temps sera ensoleillé le matin, puis le ciel va se couvrir en cours d'après-midi avec quelques averses de neige en soirée et la nuit suivante. À l'aube, demain, il fera entre moins 5 en plaine et moins 12 à 1000 mètres, puis au mieux, il fera entre 2 et 5 degrés. Sur notre région.
La météo des neiges avec le domaine skiable des Bugnonnais-Savanières.
Au niveau du ski de fond, vous pouvez vous rendre du côté du Mont-Soleil, Mont-Crozin. Le circuit à Babylone et celui de la Bruyère sont ouverts. Il y a 3,5 km dans les deux styles avec de bonnes conditions à votre disposition. Bugnonnais-Savanières, le circuit des 4 bornes sans la liaison avec Derrière Pertuis est ouvert. 10 km dans les deux styles, les conditions sont bonnes aussi, tout comme au Prédorvin. Pour la piste, les Prédorvin-Chasseral, 20 km dans les deux styles. Et c'est tout pour le ski de fond. Ski alpin, 5 remontées sur 7 sont ouverts au Bugnonnais-Savanières. Les conditions sont bonnes. Elles sont bonnes aussi du côté des Prédorvin pour 3 remontées sur 5. Tout est ouvert à Mont-Soleil, c'est-à-dire le téléski et le télébob. Tout sera ouvert dans 3 quarts d'heure plutôt, puisque ça ouvre à 13h15. Voilà ce que l'on pouvait vous dire pour ce bulletin d'enneigement que vous retrouvez en tout temps sur juratourisme.ch.
C'était la météo des neiges avec le domaine skiable des Bugnonnais-Savanières.